Nous lisons une parole de Dieu avant de prier. Il s'agit de 2 Chroniques, chapitre 15, quelques versets. Nous nous levons pour cela pendant que nous lisons la parole du Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 1. Alors l'Esprit de Dieu vint sur Azaria, fils d'Obed, de sorte qu'il sortit, se présenta devant Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et vous tous, judéens et benjaminites, l'Éternel est avec vous tant que vous vous attacherez à lui, et si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Longtemps, Israël a été sans le vrai Dieu, sans enseignement des sacrificateurs et sans loi. Puis, dans sa détresse, elle revint à l'Israël, à l'Éternel, pardon. Elle revint à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme il le cherchait, il se laissa trouver par eux. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de sécurité pour ceux qui sortaient et ceux qui entraient, car il y avait des troubles constants parmi tous les habitants des différentes parties du pays. Un peuple fut opprimé par un autre et une ville par une autre, car Dieu les effraya par toutes sortes de souffrances. Et vous, soyez forts, ne laissez pas vos mains se relâcher, car vos actions seront récompensées. Jusqu'à là, cette merveilleuse et glorieuse parole de Dieu, je voudrais peut-être répéter encore une fois du deuxième verset, la deuxième partie, B. L'Éternel est avec vous tant que vous vous attachez à lui, et si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Louange et remerciement. Que le Seigneur nous bénisse maintenant pendant que nous lui rendons gloire. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné jusqu'à cette heure. Nous te remercions pour ta lumière, Seigneur, qui a illuminé nos cœurs. Seigneur, ce soir encore, tu continueras à nous parler par ta précieuse et sainte parole. Seigneur, tu peux aussi parler par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as préparé pour nous. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous souhaiter à tous une très cordiale bienvenue dans le très précieux nom de Jésus et souhaite que vous vous sentiez bien au milieu de nous. Nous essayerons de faire tout ce que nous pouvons pour que votre séjour ici soit le meilleur possible. Mais je crois que ce qui compte avant tout, c'est ce que nous emportons et expérimentons spirituellement. Ce qui compte en premier lieu, ce n'est pas la manière dont nous sommes logés ou nourris sur terre. Ce qui compte, c'est la manière dont nous sommes nourris spirituellement. La nourriture, quelle est la nourriture qui nous est offerte? Je voudrais d'abord lire rapidement quelques versets du chapitre 24 de Luc, puis d'Actes 1, et enfin de l'Épître aux Colossiens. Peut-être puis-je demander que nous nous levions pour lire la parole. Dans Luc 24, nous lisons à partir du verset 27. Luc 24, verset 27. Puis il commença par Moïse et tous les prophètes, Luc 24, verset 27, et leur exposa toutes les Écritures qui le concernaient. Ils arrivèrent donc près du village où ils allaient en randonnée et il fit semblant de continuer à marcher. Alors ils le contraignirent en disant, reste avec nous, car le soir va venir et le jour est déjà sur son déclin. Il entra donc pour rester avec eux. Là-dessus, s'étant mis à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé des paroles de louange, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ensuite, de Actes apôtres, chapitre 1, dès le premier verset. J'ai écrit, cher Théophile, mon premier rapport de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il donna ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Puis il fut enlevé. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant avec eux des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et de Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant des souffrances que je dois endurer pour vous, complétant en ma chair ce qui manque encore aux tribulations du Christ pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église, dont je suis devenu le ministre par suite de l'intendance qui m'a été confiée par Dieu à votre égard, afin de transmettre parfaitement la parole de Dieu, à savoir le mystère qui depuis qu'il y a des siècles et des générations d'hommes a été caché, mais qui maintenant a été révélé à ses saints. Nous voulons prier. Père céleste, nous levons les yeux vers toi, ô Dieu. Nous ne sommes pas venus pour écouter les hommes ou leurs opinions. Nous sommes venus pour t'entendre et pour t'écouter et pour t'expérimenter. Nous te prions, sois présent, ô Seigneur. Parle par ta parole et par ton Saint-Esprit. Oui, comme ton serviteur l'a prié, tu es le Dieu de Daniel. Tu sais fermer la bouche et ouvrir et aussi l'ouvrir. Tu veux l'ouvrir quand ta parole est prononcée. Tu la fermeras quand on apportera ses propres pensées. Oh Dieu, nous n'avons qu'un seul désir dans notre cœur et c'est de faire ta volonté tant que nous sommes ici sur terre. Coûte que coûte. Car nous voulons subsister devant toi. Bénis-nous tous de la richesse de ta grâce. Et nous te prions que ta victoire se manifeste ce soir pour la gloire et la glorification de ton saint nom. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Je suis reconnaissant à Dieu de tout mon cœur pour cette occasion qui nous permet d'exposer en ce lieu en toute tranquillité et sans être dérangé les choses de sa parole en toute franchise devant la face du Très-Haut et sans avoir à tenir compte de qui que ce soit, ni de nous-mêmes, ni de quelqu'un d'autre. Nous vivons à une époque où le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est un temps où toutes les choses doivent être mises en ordre dans l'Église. Et toutes les pousses sauvages doivent être coupées afin qu'elles ne prolifèrent pas. Et Jésus l'a dit lui-même au sujet du vigneron, tout sarment qui porte du fruit, il le nettoyera pour qu'il porte davantage de fruits. Celui qui comprend la parole, nettoyer les sarments, c'est qu'on ne les met pas dans l'eau pour les laver ensuite, mais qu'on taille les pousses sauvages, on coupe ce qui ôte la vie à la vigne, au septe. Afin que la vie puisse aller là où le vrai fruit doit se manifester. Ainsi, lorsque le Seigneur purifie, en ce temps, lorsqu'il émonde, lorsqu'il corrige, nous devons être reconnaissants, car c'est alors qu'il nous veut du bien. Nous sommes alors des sarments qui doivent porter du fruit et qui peuvent en porter. S'il ne taille plus, nous risquons d'être retranchés. Nous sommes en danger. Je préfère être circoncis que coupé. Je préférerais, au temps de la grâce, que le couteau tranchant de sa parole, qui est comme une épée à deux tranchants, fasse son effet sur moi, en moi, plutôt que d'être finalement retranché et jeté au feu. N'oubliez pas qu'il s'agit de sarments. Très souvent, nous avons entendu et fait la comparaison de l'ivraie et du blé, de l'ivraie et du blé, de la paille et du blé. Mais là, il est dit, tout sarment en moi, en moi. Donc, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Mais tout sarment qui porte du fruit, il le purifiera, afin qu'il porte davantage de fruits et que le Seigneur soit honoré et glorifié. Il me tient à cœur de dire quelque chose, de quelques mots sur ce qui nous concerne particulièrement en ce moment, ce qui relève de la proclamation de la parole de Dieu. Et à la conclusion, oui, à la conclusion bénie, nécessaire à la perfection et à l'achèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi j'ai choisi cette parole ici lorsque le Seigneur Jésus a commencé à parler à ses disciples, ayant commencé par Moïse et tous les prophètes, et il a pu leur montrer et leur révéler les Saintes Écritures dans leur signification et leur accomplissement divin. Nous croyons que nous vivons à l'époque où toutes les choses arrivent à leur conclusion. Et si les moqueurs se moquent, cela aussi est prédit dans la Bible. Qu'à la fin des temps apparaîtront des moqueurs qui marcheront selon leur propre convoitise, oui, qui ne reconnaîtront rien, mais qui seront embus d'eux-mêmes, orgueilleux et vantards, et ils suivront leur propre voie. Mais cela me rappelle la conversation d'un frère avec un homme qui ne croyait pas en Dieu. L'incroyant lui a dit en face, « Mais Dieu est mort. » Et le croyant dit, « Ce n'est pas possible. Je viens tout de suite de lui parler. Je viens justement de lui parler. » Tout de suite. Le non-croyant dit, « Non, mais Dieu est mort. » Et le croyant dit, « Ce n'est pas possible. Je viens là à l'instant de lui parler, de parler avec lui. » Vous voyez, nous pouvons parler avec Dieu. Nous pouvons parler à Dieu. Nous pouvons lui parler. Nous pouvons être en communion avec lui, dans sa présence. Ceux qui sont morts, ce sont les pécheurs. Ceux qui sont morts dans le péché et la transgression. Mais Dieu est vivant. Et celui qui est parvenu avec lui à une vie nouvelle, vit lui aussi et est en communion avec le Dieu vivant. Les choses sont ainsi. Mais les hommes les voient différemment parce que leur point de vue et leurs expériences sont différentes. Ici, dans cette parole, et cela me touche particulièrement depuis lundi, j'ai marché le cœur et la tête courbée pendant tous ces jours pour montrer au peuple de Dieu, à partir de la responsabilité qui m'a été confiée, la voix claire de Dieu en ce temps. Donc le chemin. Et je peux le dire de tout mon cœur. Devant Dieu, je n'ai pas de point de vue personnel à défendre. Je n'ai pas de dénomination à laquelle j'appartiens. Je n'ai donc rien à défendre si ce n'est la vraie foi en Jésus-Christ, toute la révélation de sa parole et de sa volonté telle qu'elle nous a été transmise et laissée dans les Saintes Écritures. Tout le reste n'est pas mon affaire. Nous avons constaté, ou pouvons constater, donc en regardant en arrière, qu'à toutes les époques, lorsque Dieu a fait quelque chose de particulier sur terre, il y a eu des gens qui l'ont compris spirituellement et ont pris part vraiment à l'action de Dieu dans leur temps. Et il y a eu des gens qui l'ont compris intellectuellement et qui ont voulu en faire une grande affaire. Mais la grande chose que Dieu a toujours faite, c'est parmi ceux qui, en leur temps, ont compris la visitation divine et non parmi ceux qui, après la fin de la visitation divine, ont voulu faire quelque chose de n'importe quelle chose. Peut-être devrais-je être clair à ce sujet. Au temps de Moïse, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il envoya sa parole et fit sortir son peuple, se révéla à eux d'une manière très puissante. Et tous ceux qui crurent de tout leur cœur eurent part à ce que Dieu avait fait. Plus tard, lorsque la première génération s'est terminée et que le Seigneur en a fait naître une nouvelle, il a de nouveau envoyé quelqu'un pour guider le peuple de Dieu. Et ils entrèrent dans la terre promise. Les scribes et les pharisiens du temps de Jésus ou jusqu'à cette époque, ils se sont référés à Moïse comme à leur prophète particulier, comme étant leur prophète particulier et à l'extérieur, avec raison. Ils ont pu dire « Moïse a dit, et ils avaient toujours Moïse dans la bouche. Moïse a dit cela. Qu'est-ce que tu dis? Moïse a dit. Mais ils n'ont pas vraiment cru ce que Moïse a dit. Car s'ils avaient cru ce que Moïse a dit, ils auraient reconnu Jésus-Christ, l'auraient suivi, et auraient participé à l'action de Dieu dans leur temps. Nous vivons à une époque où Dieu a envoyé un prophète. Et nous pouvons le dire de tout cœur. Après presque 2000 ans, et depuis le christianisme primitif, et tous ceux qui ont lu l'histoire de l'Église le savent, il y a eu suffisamment de personnes qui ont prétendu être des prophètes ou des prophétesses. Mais un prophète de la parole, un homme de Dieu, avec lequel ainsi parle le Seigneur, est un prophète d'une importance historique pour le salut, un homme envoyé par Dieu, par lequel le Seigneur lui-même a parlé. Il n'y en a pas eu de tout le temps jusqu'à nos jours, dans tous ces différents âges, parce que ce sont les jours de clôture de tout le temps de la grâce dans lequel nous vivons qui atteint maintenant son point culminant. Il faut maintenant faire attention. Il y aura deux groupes qui ont toujours existé dans cette génération aussi. Il y aura un groupe qui aura une attitude spirituelle, qui sera spirituelle, qui aura des pensées, des sentiments spirituels. Ce groupe ne dira pas comme à l'époque, Moïse a ceci, Moïse a cela, Moïse a dit ceci. Mais comme le Seigneur Jésus, il a pris ce que Moïse a dit, il a pris ce que les autres prophètes ont dit et ce que les psaumes ont dit, il a tout intégré dans la révélation globale du Dieu Tout-Puissant et a donné au peuple de Dieu une vue d'ensemble afin qu'il puisse savoir, ici s'accomplit ce que Moïse, ce que Ésaïe, ce qui est écrit dans les psaumes, ce qui est écrit dans tout l'Ancien Testament. Et c'est là le mystère. Les Juifs ont fait de Moïse leur prophète. Ils ont dit, c'est notre prophète. Ils avaient raison. Mais ils n'ont pas entendu ce que Dieu voulait leur dire par le biais de Moïse, de ce prophète. Ils l'ont seulement utilisé comme l'homme qui était le bienvenu dans leur dans le concept global qu'ils avaient établi eux-mêmes. Le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus, il a placé chaque prophétie, chaque déclaration biblique, qu'elle soit dans Moïse, dans Ésaïe, dans les psaumes, partout où elle était écrite, il l'a placé dans l'événement global de la accomplissement divin de sa parole à cette époque autrefois. Et si nous regardons en arrière dans l'histoire de l'Église, il y a eu une période de réformation. Dieu avait un homme puissant, et cela, personne ne le nie, l'un des plus grands qui ait traversé notre pays. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'était? Ce n'était qu'un reste qui, à l'époque, a compris ce que Dieu leur avait donné. Les autres en ont fait toute une histoire par la suite et ont dit, « Oh, ce Martin Luther, c'est notre homme. » Oui, c'est leur homme, jusqu'à aujourd'hui encore. Mais la question est la suivante. Où est Dieu? Où est l'ensemble des événements du salut? Où s'accomplissent les promesses des Écritures? Et après que le Seigneur en eut fini avec ce grand homme de Dieu, on forma une organisation et on en fit telle ou telle direction. Et Dieu a envoyé un autre, et ce jusqu'à aujourd'hui. C'est l'homme d'une certaine direction de foi et c'est arrivé. Et cela s'est répété au fil des siècles, tout au long de l'histoire de l'Église. Frères et sœurs, cela ne doit pas se répéter dans cette génération. Cela ne doit pas se répéter dans cette génération. Le seul qui a le centre dans son Église, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même. Et nous sommes liés et tenus devant Dieu de mettre en contexte, dans le contexte, d'apporter dans le contexte et de mettre dans son contexte et d'intégrer toutes les prophéties de l'Écriture. De sorte, donc de mettre dans leur contexte, de sorte que tout s'enchaîne et s'accorde harmonieusement afin que Dieu puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit avec nous tous. Il ne faut donc pas que nous sortions n'importe quelle chose de son contexte et que nous disions « Notre prophète a dit cela ». Ce qui a été dit est vrai. La question est, pouvons-nous le mettre dans le bon ordre? Dans le bon ordre, c'est l'autre question. À l'époque, les scribes savaient exactement ce que Moïse avait dit. Mais la question était, pouvait-il le classer? Avait-il les yeux divinement ouverts? Était-il loin et placé par Dieu? Je l'ai déjà dit ici, mercredi soir. Quelle différence! Il y a les scribes et les pharisiens, ils pouvaient sortir citation après citation de Moïse. Soudain, il y a un pêcheur, un publicain et les disciples du Seigneur. Quelle a été leur composition? Des hommes selon le cœur de Dieu. Et voilà qu'ils ont un mot par ci, un mot par là. Pierre se lève et la Pentecôte est dit, le jour de la Pentecôte est dit, « Cher ami, ces frères ne sont pas ivres comme vous le pensez. » C'est ici que s'accomplit la parole du prophète Joël qui dit, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Immédiatement, les hommes de Dieu ont eu la bonne parole pour donner la réponse afin que tous ceux qui étaient venus soient informés de ce que Dieu avait promis et de ce qu'il a accompli par la suite. Cela a commencé immédiatement après que la trahison de Judas. Pierre, après, cela a commencé immédiatement après la trahison de Judas. Pierre prend la parole au milieu des disciples avant la Pentecôte et dit, il est écrit que sa demeure sera dévastée et que son ministère soit confié à un autre. Et c'est parti. Ça, c'est la direction du Saint-Esprit. Un prophète, les luthériens les méthodistes, les mormons, ils en ont tous un. Ils en ont tous un, mais l'Écriture sainte nous le dit ici. Le Seigneur Jésus a parlé à ses disciples. Il a commencé par parler de Moïse et de tous les prophètes. Il a commencé avec Moïse et tous les prophètes. Et à la fin du chapitre 24, ici, il dit, là-dessus, il leur a donné le sens de la compréhension des Écritures. Et il dit, le Christ ne devait-il pas souffrir, etc. Et il est dit ici, dans le verset, au verset 44, Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans toute la loi de Moïse, dans tous les prophètes et dans les psaumes. Cela s'est accompli. Et si vous lisez en particulier l'épître aux Romains et l'épître aux Hébreux, vous verrez comment dans la proclamation de la parole dans le Nouveau Testament, la parole prophétique n'a pas été interprétée de manière unilatérale, mais a été intégrée par la grâce de Dieu et montrée dans son accomplissement, de sorte qu'une harmonie divine s'est créée dans la proclamation globale. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait jusqu'à aujourd'hui. Là où ce n'est pas le cas, il y aura du fanatisme. On insistera sur les choses et souvent on ne les fera pas soi-même. Le Seigneur Jésus a dit, les scribes et les pharisiens se sont assis sur la chair de Moïse. Moïse était leur prophète. Aujourd'hui, beaucoup se sont assis sur la chair du prophète que Dieu a envoyé pour ce temps, sans avoir pour mission, sans avoir pour mandat de tout classer bibliquement et de donner au Seigneur la possibilité ainsi de se révéler à nous. À l'époque, le Seigneur Jésus a d'abord tout dit à ses disciples, depuis Moïse jusqu'au psaume et aux prophètes. Puis ils lui ont demandé de rester avec eux. Il est entré et s'assit à table et rompit le pain. Puis il s'est éclipsé, il a disparu. Ce n'est pas une proclamation unilatérale, mais une proclamation tous azimuts global qui incitera Jésus-Christ à venir chez nous en ce moment et à célébrer le repas avec nous. Il ne rentrera pas là où il y a des interprétations. Lorsque j'ai lu récemment cette parole dans les Actes des Apôtres, selon laquelle le Seigneur Jésus a témoigné aux siens qu'il était vivant, un désir profond s'est fait jour en moi. Ô Seigneur, témoigne-nous que tu es le vivant, comme on a lu dans Actes des Apôtres 1, que tu es ressuscité, celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous ne voulons pas faire des paroles, seulement parler, non. Nous voulons voir Jésus-Christ comme le vivant, comme le ressuscité au milieu de nous et dans notre vie. Autrement, cela ne nous servira à rien. Les disciples auraient pu parler jour et nuit. Cela ne leur aurait servi à rien. Une rencontre avec Jésus, le ressuscité, a tout fait. Il veut parler des disciples d'Emmaüs, a tout provoqué. Ils ont compris tout à fait clairement de quoi il s'agissait dans leur temps. Chers frères et sœurs, il me tient profondément à cœur que ces réunions soient une rencontre personnelle avec Dieu. Que Jésus-Christ puisse nous témoigner qu'il est le Tout-Puissant, le vivant, le ressuscité. Que chacun d'entre nous puisse avoir une telle rencontre avec lui dans ses réunions. Il ne s'agit pas de beaucoup parler, il ne s'agit pas de savoir ce qui a été dit ici ou là. Les Saintes Écritures disent même que si l'on avait voulu écrire tout ce que le Seigneur Jésus a fait, etc., ce n'est pas une question de quantité, il s'agit de l'exactitude. Car le monde ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Donc, ce n'est pas une question de quantité, il s'agit de l'exactitude. Il s'agit de que ce que nous avons reçu soit correctement classé par la grâce de Dieu dans son contexte dans les Écritures, que le Seigneur Jésus, pour que le Seigneur Jésus puisse venir à nous, venir entrer parmi nous, qu'il puisse nous témoigner qu'il est vivant et se révéler à nous de la même manière qu'autrefois. Vous direz peut-être qu'il ne l'a fait qu'avec les deux disciples après d'Emmaüs. Non, c'est écrit lorsque les 11 furent réunis, il se tint au milieu d'eux. Et dans le premier, dans 1 Corinthiens 15, il y a déjà, encore au verset 5 ou 6, il est écrit qu'il s'est alors révélé à plus de 500 frères à la fois. Jésus-Christ peut témoigner et se révéler à nous tous ici ce soir comme le vivant. C'est ainsi, il est le même. Et ce qu'il a fait au commencement, il le fait aussi à la fin. Il le fera aussi à la fin. Nous ne pouvons pas faire autrement que de suivre le chemin droit et clair avec Dieu. Et j'espère que personne n'est ici, que personne ici n'a de malentendu dans son cœur pour mal comprendre ce qui est dit. Ce qui nous importe, c'est que nous sommes tous des serviteurs de Dieu et que le service très apprécié de Frère Branham a été confirmé par Dieu d'une manière unique. Et nous pouvons presque utiliser le mot d'une manière inédite. Mais quand il s'agit de faire d'un prophète une idole, cela va trop loin. Jésus-Christ est et reste notre centre d'intérêt. J'espère qu'il n'y a pas des amis ici ce soir. Mercredi soir, en rentrant du service divin, j'ai reçu un appel du Canada de frère Gunther. Et il me dit, frère Franck, tu connais les frères Mosley, ce sont deux frères. Ils croyaient que frère Branham allait revenir et ils avaient un avion et ils attendaient que quand il viendra, ils pourraient tout de suite aller partout avec lui par avion. Et je ne sais pas, mes frères n'étaient en partie pas là lors de la réunion. Maintenant, à Tucson, en décembre, mais j'ai écouté certaines choses et je me suis brûlé la langue parce que je dois m'opposer à tout ce qui n'est pas biblique. Je n'y peux rien. L'Esprit de Dieu en moi s'oppose à tout ce qui n'est pas biblique. Je n'y peux rien. Ce n'est pas mon mérite. C'est l'Esprit de Dieu en moi. Mais j'ai dû dire clairement aux frères qu'ils croyaient des choses qu'ils ne pouvaient pas lire dans les Saintes Écritures. Et puis, ils m'ont dit, mais Dieu nous a donné encore beaucoup de paroles en plus. Je dis, non, pas moi. Moi, il m'a révélé, c'est-à-dire ce qui était déjà écrit. Et ils ont insisté. Et maintenant, les frères sont montés en avion avec 6 frères. Ils sont montés dans l'avion et l'avion s'est écroulé. Ils sont tous morts d'un champ. L'avion est tombé sur le champ. Et j'espère seulement qu'il y a eu un très grand réveil parmi tous ceux qui ont fait de Frère Branham une idole. J'espère qu'ils se sont réveillés, Et je le répète, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de Paul. Je n'ai pas honte de Moïse. Je n'ai pas honte non plus de Frère Branham. Au contraire, c'est un prophète envoyé par Dieu. Mais je le répète, faire une idole de n'importe quelle chose, c'est une chose. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour donner tout l'honneur à Jésus-Christ, pour lui donner la priorité. Lui, le centre. Dieu a utilisé des prophètes pour nous parler, pour que nous soyons ramenés à la parole et que nous puissions situer toutes choses bibliquement. Et je le confesse librement et ouvertement. Je ne pourrais pas classer les choses de manière biblique par aujourd'hui. Si Dieu n'avait pas envoyé son prophète, s'il n'était pas venu, j'en saurais aussi bien et aussi peu que nous tous et nous serions passés à côté. C'est Dieu qui l'a envoyé, mais que nous devions garder l'équilibre, c'est certain. Sinon, les tempêtes arrivent déjà, de toute façon. Si nous prenons déjà de nous-mêmes le dessus ici ou là, quand sera-t-il Quand sera-t-il? Quand les tempêtes arriveront. Et frères et sœurs, croyez-moi, l'ennemi est si rusé qu'il prend la parole de Dieu, puis il s'en écarte un peu. Toujours un peu. Et il ajoute ensuite quelque chose. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, on s'est écarté de la parole de Dieu sans même s'en rendre compte. Nous croyons que le message de la fin des temps est la parole révélée par Dieu et que nous avons été ramenés à l'Écriture sainte, à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout cela. Et de même que le Seigneur Jésus, à l'époque de sa première venue, après sa résurrection, a témoigné aux saints qu'il était vivant. De même, il veut se témoigner à nous comme le vivant en ce dernier temps. Il n'est pas mort. Je l'ai dit ici tout à l'heure, le non-croyant disait Dieu est mort. Le croyant pouvait dire non, ce n'est pas possible, je viens de parler avec lui. Cet entretien, cette communion, cette nostalgie de désirer Dieu, l'avons-nous dans notre cœur ou nous comptons? Ou bien, où nous contentons-nous d'une connaissance? D'une connaissance, et la connaissance gonfle, enflamme. Mais l'amour de Dieu, lui, édifie. Il ne détruit pas, il ne déchire pas. Il construit, il bâtit, il édifie dans la mesure où tous sont édifiés sur le fondement, sur ce fondement unique qu'est Jésus-Christ. Pour devenir une habitation divine, une maison de Dieu dans l'esprit. En esprit, Dieu veut faire de nous de tels gens qui marchent dans ses voies, qui sont guidés par son esprit, conduits par son esprit, qui marchent dans les limites, dans le cadre de sa parole, qui ne s'écartent pas ici et là et ne courent pas après les choses, mais qui suivent tout simplement le droit chemin. Plus tard, Paul a dit qu'il voulait que la parole de Dieu soit parfaitement apportée conforme au mandat qui lui avait été confié dans l'Église. Il voulait ce mot parfait, parfaitement apporté. On a lu dans Colossiens. Soit parfaitement transmise parfaitement. C'est très important. Pas seulement d'une manière ou d'une autre, mais conformément à la volonté de Dieu. Transmise parfaitement sous la direction du Saint-Esprit. C'est lui qui, à l'époque, Colossiens 1, 25, c'est lui qui, à l'époque, a pu donner aux églises des éclaircissements sur les mystères qui étaient cachés depuis la fondation du monde. Pourquoi? Parce qu'il lui avait été donné de voir dans les mystères de Dieu. Et de la même manière, il a été donné par Dieu à frère Branham, à cette époque, de regarder dans les plus profonds secrets de la parole prophétique et de les apporter au peuple de Dieu. Mais cela n'autorise aucun d'entre nous à sortir et à dire, voilà, je viens maintenant au même nom que celui que Paul prêchait. L'un d'eux a dit, je connais Jésus et Paul aussi, mais toi qui es-tu? Parce qu'on a la connaissance, on pense qu'on peut faire ceci et cela. Cela ne sert à rien et à personne, à moins qu'un appel divin clair, une commission claire est sortie de la bouche du Seigneur, n'ait été donnée pour que ce que Dieu a chargé ou ordonné soit ensuite exécuté. Et alors, il y a un témoignage qu'on a. Il n'est ni temps ni nécessaire que quelqu'un s'avance ici et parle d'une vocation divine ou d'un appel divin qu'il a reçu. Mais je voudrais dire ceci. Personne ne pourra jamais comprendre ce que cela signifie de porter une responsabilité devant la face de Dieu pour l'Église à cette époque, dans ce temps. Et quand on voit alors des choses qui ont dévié, c'est comme nous avons l'habitude de le dire, excuse que si quelqu'un peut sentir avec sa canne, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on dit quelque chose, alors il y a des gens qui le comprennent mal parce qu'ils ont tout de suite l'impression qu'on n'a pas rendu l'honneur nécessaire à frère Branham. Les Saintes Écritures disent que nous devons donner l'honneur à celui qui le mérite. Et il est écrit, toute la gloire est à notre Dieu. Il suffit de lire l'Apocalypse pour voir comment les quatre êtres vivants et les 24 anciens et toutes les armées célestes se joignent au chant de louange. Qui est alors honoré là? Aucun prophète, seulement celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis sur le trône, c'est à lui que reviennent tout honneur, toute gloire et tout renom, toute gloire. Tout le reste n'est qu'enthousiasme, mais pas l'Esprit Saint au temps de Moïse ou même au temps de Saül et ainsi de suite. Il y avait toujours des gens qui étaient enthousiastes et il y en avait aussi qui étaient sous l'enthousiasme prophétique. Vous l'avez lu au jour de Samuel et de Saül. Il y avait des prophètes, c'est-à-dire des hommes sous enthousiasme prophétique. Mais cela ne leur n'a pas servi. Cela ne leur a pas servi du tout. L'onction, c'est ce qui a fait la différence. Il y a aujourd'hui des gens qui sont sous l'emprise d'un enthousiasme prophétique. Ils sont emportés, transportés, mais c'est un enthousiasme. Ce dont nous avons besoin, c'est de la révélation de Jésus-Christ qui s'est manifesté comme la somme du tout en ce temps, comme l'alpha et l'oméga. Frères et sœurs, si nous parlons si sérieusement ici, face à face, ce n'est pas pour rien. La venue du Seigneur est imminente. Où est l'Église épouse de Jésus-Christ? Un enthousiasme prophétique ne suffit pas, plus qu'un autre enthousiasme. Nous avons besoin d'une révélation prophétique de la parole de Dieu elle-même pour que nous placions toutes choses dans l'ordre biblique en ce temps et que nous nous taisions d'abord pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Si nous donnons au Seigneur une liberté totale, si nous lui laissons tout, si nous ne voulons plus rien faire, mais si nous disons simplement: Seigneur, me voici, prends-moi comme je suis et donne-moi l'onction de ton Saint-Esprit dans mon âme, non pas un enthousiasme prophétique, une révélation, mais une révélation prophétique de la parole de Dieu en ce temps. Révélation de Jésus-Christ. Onction avec la puissance du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et alors nous sommes sur la bonne voie. Bien sûr, les scribes de l'époque, autrefois ils pouvaient dire: Moïse a donné, a ordonné, Moïse a, Moïse a, Moïse a. Et ils ne savaient même pas qu'ils comprenaient les choses ordonnées par Moïse selon l'intellect et non selon la signification et le sens divin. Et qu'ils ne les voyaient pas du tout dans l'accomplissement. Après que le Seigneur Jésus ait été depuis longtemps l'accomplissement des Écritures, ils ont continué à faire semblant de faire ce que Moïse leur avait dit. Et quand le Seigneur s'est fâché, il est entré dans le temple et les a tous battus. Il a renversé leur table et a dit: vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Sortez, vous n'avez plus aucun droit ici. Et plus tard, le temple a été détruit et le peuple d'Israël a été dispersé. Et ils ont marché avec Moïse sur toute la terre. Et ils ont marché avec Moïse sur toute la terre à travers ces siècles. Et à quoi cela leur a-t-il servi? Frères et sœurs, je le dis encore une fois, sans équivoque, je suis reconnaissant à Dieu du fond du cœur pour la révélation prophétique de sa parole, pour le ministère de Frère Branham, qui est incomparable à tout ce qui a été. Mais sa tâche consistait à nous amener à Jésus-Christ, l'époux de notre âme, à nous préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Ne pas nous mettre dans un état d'enthousiasme. L'enthousiasme, nous le voyons sur le terrain de sport ou lorsqu'il y a un match de boxe ici ou là. Là, il y a l'enthousiasme. Et souvent, aussi dans les milieux croyants, combien de fois les gens sont-ils tombés dans l'enthousiasme au lieu de faire une expérience réelle avec le ressuscité qui veut témoigner qu'il est vivant? Pourtant, partout où le Seigneur Jésus s'est manifesté après sa résurrection, il y avait une grande joie. À partir de là, les non-croyants ne le voyaient plus. Mais pour les croyants, il s'est révélé et a témoigné qu'il était vivant. Nous ne pouvons pas dire au Seigneur: « Oh Seigneur, si tu fais ceci ou cela aujourd'hui, nous croirons que tu as témoigné de toi comme étant vivant pour nous. » Ce que Dieu veut faire, c'est son affaire. Aujourd'hui, nous voulons venir devant la face de Dieu avec un désir profond et dire: « Seigneur, comme tu veux, mais témoigne-toi comme le vivant, comme le ressuscité. Ce que tu feras sera bien fait. Que les malades soient guéris, que les pécheurs soient sauvés. Quoi qu'il arrive, que nous soyons baptisés dans l'Esprit et le feu, peu importe ce qui se passe, nous voulons que Jésus nous témoigne qu'il est vivant, que nous ayons une expérience réelle avec lui, dont chacun puisse dire qu'il est vivant. C'était bien d'être ici. Nous avons fait l'expérience du Seigneur dans sa grâce et dans sa puissance. Jésus-Christ est le même. Il a alors autrefois donné à ses disciples une pleine connaissance de tout l'accomplissement de la parole prophétique dans leur temps. Il est ensuite entré dans leur maison, a béni le pain, puis est reparti. Et alors, et déjà, il était dans un autre lieu ailleurs, continue à bénir et à rompre le pain. Et ensuite, il s'est même révélé à plus de 50 frères à la fois. Si nous pouvons être un seul cœur et une seule âme ce soir, et si nous sommes rassemblés devant la face de Dieu avec une foi totale et sans aucun doute, quelque chose de très puissant peut se produire ce soir. Nous avons mis notre espoir dans le Dieu vivant. Et celui qui place sa confiance en lui ne sera pas confondu et confus. Je voudrais que nous soyons sérieux ce soir. Que nous ne remettions plus les choses à plus tard et disant, eh bien, ça va venir. Mais plutôt dire, Seigneur, aujourd'hui, je viens devant ta face. Aujourd'hui, je veux avoir une rencontre avec toi. Aujourd'hui, tu révèles ta puissance. Révèle ta puissance et ta gloire. Car tu es ressuscité. Tu es vivant. Tu entends, tu parles et tu bénis. Si nous parlons ainsi avec le Seigneur, ici ce soir, nous ressentirons bientôt son vêtement. Comme le chante un auteur, compositeur, au milieu de nous, nous remarquerons qu'une douceur de l'Esprit de Dieu descend sur nous tous par une proclamation, pas une proclamation dogmatique, le prophète a dit, mais une douceur intégrée dans l'ensemble des événements de Dieu. En ce moment, sachant que le Seigneur veille sur son peuple, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je ne sais pas si Pierre pouvait réciter autant que les scribes, mais je savais une chose. Chaque fois qu'il y avait urgence, il avait la bonne parole prophétique à la bouche. Le Saint-Esprit l'avait mis dedans, dans sa bouche. C'était un pêcheur. Les autres étaient des théologues, des théologiens, et ils mentaient aussi en grande partie. Mais lui, cet homme de Dieu, si simple, si dépouillé, avait la parole de Dieu à la bouche chaque fois que c'était nécessaire. À chaque fois que c'était nécessaire. Pas pour lui-même. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ils prennent ce que le prophète a dit et qui correspond à leur concept. C'est ce qu'ils prennent et c'est ce qu'ils soulignent. Ce n'est pas une prédication, ça. Pour qui prêchons-nous, en fait, ici devant? Pour qui? Pour nous justifier? Non. Nous prêchons, comme le dit Paul, pour éclairer tout le monde sur le mystère qui était caché aux enfants des hommes depuis la fondation du monde, mais qui a maintenant été révélé à ses saints. C'est bien de cela qu'il s'agit, et non de la justification. Dieu est celui qui justifie. Et Paul dit aux Corinthiens, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est recommandé, mais celui que le Seigneur recommande. Personne n'a besoin de se recommander lui-même. C'est le Seigneur qui fait la recommandation. Mais c'est de cela qu'il s'agit en ce moment. Non pas de se défendre soi-même, non pas de se justifier soi-même, mais de donner un éclaircissement sur l'ensemble de l'événement du salut. Oui, comme Paul l'écrit ailleurs dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres, qu'il a annoncé l'ensemble du conseil de salut de Dieu sans rien caché. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, Paul a dit qu'il voulait que la parole soit entièrement, qu'elle soit transmise parfaitement. Colossiens 1, 25. pas de manière partielle, mais transmise parfaitement, entièrement. Et nous croyons qu'à cette époque, la parole de Dieu a été entièrement restituée, restaurée. Mais cette parole parfaite doit être intégrée dans toutes les promesses, dans la parole prophétique, dans la parole des apôtres, dans la parole apostolique, dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament. Tout doit être correctement équilibré et intégré dans la prédication. Ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons à une véritable expérience avec Dieu dès ce soir. Je parle simplement de ce soir. Je suis en train de parler de ce soir. Je ne sais pas si nous serons ici demain. Nous avons l'intention de le faire, de venir, si Dieu le veut. Mais nous sommes ici ce soir. Et ici, le Seigneur veut se révéler à nous maintenant, ce soir. Dites-moi, êtes-vous venu avec ce désir dans votre cœur de faire l'expérience de Dieu aujourd'hui? Dites-le en toute sincérité. Oui ou non? Oui ou non? Si le « si », le « oui » est un « oui » qui vaut devant Dieu, alors nous ferons l'expérience de Dieu ici, aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous pouvons nous tromper les uns les autres, mais Dieu ne peut pas nous tromper. Il témoigne de lui même comme le vivant, comme le Seigneur, qui est là, qui était là et qui vient. Nous connaissons, nous savons aussi tous les autres apôtres du Nouveau Testament, ils ont toujours, prenez Jacques, quand on leur a demandé que va-t-il arriver maintenant avec les païens, alors il s'est levé, a dit, Pierre vient de dire, Pierre Simon a dit que c'était comme c'est écrit dans le prophète, que Dieu se tournera vers les païens et qu'il enlèvera un peu pour son nom, sortira un peu pour son nom, qui portera son nom. Les apôtres n'avaient pas la parole prophétique pour leur propre défense, mais pour montrer à l'Église, comme dans Actes apôtres 15, Jacques, qu'une partie de l'histoire divine du salut s'accomplissait maintenant dans leur temps. Et c'est pourquoi Dieu était avec eux. Et ils étaient un seul cœur et une seule âme, unis et maintenus ensemble par l'amour divin, qui est le lien de la perfection. Si la parole de Dieu doit être parfaitement transmise, alors l'amour parfait de Dieu doit aussi remplir nos cœurs, dans lequel la parole parfaite doit être enchâssée, intégrée, afin qu'un fruit parfait puisse naître et croître dans ces derniers temps. Nous savons que Dieu a achevé l'œuvre de la création au dernier jour. Tout était déjà beau, mais quand les choses ont été achevées, Dieu s'est réjoui. Le septième jour, il se reposa de toute son œuvre, de tout son travail, et il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Dans cet âge de l'Église, tout arrive à son terme, et ce que Dieu fait est bien fait. C'est une œuvre glorieuse. Une œuvre magnifique. Parmi tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations, le Seigneur a son peuple. Il les appelle, il les bénit, il leur témoigne qu'il est le vivant. Frères et sœurs, lisez donc cette parole dans la prière où il est écrit, il se montra à eux comme vivant. 40 jours et 40 nuits. Vous savez ce que cela signifie? Dieu ne dort pas et ne sommeille pas. Il est le gardien d'Israël. Lui, le gardien de son Église. Que ce soit le jour ou la nuit, Dieu a toujours le temps de parler. Nous pouvons toujours compter sur son aide et sa bénédiction. Mais nous devons nous dépouiller complètement, sortir de nous-mêmes, nous oublier nous-mêmes. Nous devons mettre de côté tout notre savoir-faire et toute notre volonté et dire, Seigneur, me voici. Nous sommes ici en tant que ton peuple et nous pouvons le dire en toute humilité. Dieu nous a fait la grâce d'être les moins instruits en ce temps, en tant que personnes qui savent le moins, que nous avons reçu suffisamment de paroles, de révélations divines pour pouvoir classer bibliquement ce que Dieu fait maintenant et apporter dans le peuple du Seigneur toute la parole, toute la révélation et qu'elle soit scellée dans le cœur de ses disciples. Comme l'a dit le prophète Ésaïe, scelle l'instruction dans le cœur de tes disciples. Non pas dans tous les hommes, mais dans le cœur des disciples. de ceux qui te suivent. Qui est un disciple de Jésus? C'est un écolier. Le mot disciple et élève est le même. Un disciple est un élève à l'école de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup veulent être des maîtres. Et comme l'écrit Paul, vous avez beaucoup de maîtres. C'est bien joli, mais la Bible dit qu'un seul est notre maître et c'est Jésus-Christ. Et un seul est notre Seigneur, c'est lui. Mais il n'y a donc pas de maître, mais il y a des instituteurs. Et nous n'avons pas besoin d'eux. Nous avons besoin de Père en Christ, des hommes de Dieu qui apportent la parole du Seigneur du plus profond de leur cœur et qui disent au peuple de Dieu ce que l'Esprit a révélé. Et vous verrez que le Seigneur réussira à extraire de la prédication telle qu'il a donnée une épouse sans tache et sans ride, à la purifier et à la sanctifier et à la présenter inattaquable, irrépréhensible devant sa face. Chez nous, cela peut sembler impossible. Avec Dieu, toutes les choses sont possibles. Et il a fait naître les choses à partir du néant. Il en va de même dans notre vie. Si nous avions déjà tous apporté quelque chose, nous pourrions même nous en faire une. Des pensées, je n'ai rien à apporter. Tout, Seigneur, c'est toi. Mais à partir de ce rien, tu appelles quelque chose à l'existence par ta parole toute puissante, quelque chose qui dure éternellement. Et nous devons être devenus un rien. C'est seulement alors que le Seigneur peut tout faire de nous. Il faut que nous ne sachions plus rien pour qu'il puisse prendre notre connaissance et tout ce que nous sommes et avons, que ce soit lui. Et tout ce que nous sommes et avons, que ce soit lui, que son nom soit à nouveau glorifié et que son sang précieux et saint nous purifie de toute faute et de tout péché, que nous puissions nous présenter devant lui dans l'allégresse et dire, Seigneur, atteste-nous que tu es le vivant. Marche au milieu des sept chandeliers d'or et parle-nous par ta sainte et précieuse parole. Le Seigneur a autrefois révélé l'Écriture à ses disciples, leur a fait connaître la parole prophétique, leur a aussi ouvert l'esprit, le sens sur l'Écriture et les a bénis. Il fait la même chose maintenant. Il ne peut pas changer. Et si quelqu'un pense que frère Branham a dit autre chose que ce que dit la Bible, il s'est trompé. Je peux le lui dire librement et ouvertement. Il s'est trompé. Cette personne se trompe. Quand Dieu parle, il ne parle pas de deux choses différentes. Il parle d'une seule chose. Depuis le commencement. S'est-il passé ainsi? Oui. Nous pouvons nous fier à cela. Et frère Branham a souvent dit que c'était sa tâche. Que l'Église du Seigneur soit ramenée à la parole infaillible qui était dispersée et retenue dans des statuts et toutes sortes de choses. Qu'elle soit ramenée à la parole infaillible et impérissable de Dieu. Et c'est là que nous sommes revenus. Et il a dit, personne ne peut faire de mal au sein de l'Écriture, ne peut rien ajouter au sein de l'Écriture. Et c'est ainsi ce qui est écrit. Personne n'a le droit d'ajouter ou de retrancher quelque chose. Alors que même quand on lui disait, écoute, dans les sept sceaux, des choses ont été révélées qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il est resté un moment silencieux et il a dit, un instant, ça c'est le truc du diable. Il dit, Dieu ne peut révéler que ce qui est écrit dans sa parole. C'est le seul fondement. Cela a été caché et révélé. Mais se trouve dans la parole de Dieu. Et ainsi que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est dans sa parole. Sa parole est une parole toute puissante. Et tous ceux qui ont reçu sa parole en eux feront l'expérience de cette force, de cette puissance, de cette force toute puissante de Dieu et seront bénis. Et ce seront des gens de paix, des gens de bénédiction, des gens d'amour. Non plus avec du dogmatisme, avoir vouloir ici raison, toujours avoir raison ici, et j'en sais plus que toi et ainsi de suite. Non, nous savons tous la même chose. Si le Seigneur ne nous avait pas parlé, nous ne saurions rien. nous ne saurions rien. Nous devons partir de là. Et si Dieu est si miséricordieux, s'il nous parle et nous accorde sa grâce, c'est uniquement pour que nous soyons édifiés ensemble jusqu'à ce que nous soyons tous accomplis en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que nous puissions alors passer de la foi à la vue. Il y a des heures d'enseignement, de réprimande, où on simule, on s'abaisse, et ensuite des heures d'élévation. Il y a des heures variées que Dieu nous prépare devant sa face. Tout ce qu'il fait est bien fait. Et nous voudrions à tout prix réussir devant lui, subsister devant lui, coûte que coûte. Nous voulons garder l'équilibre, rester sobre dans la vie et dans la prédication. Et si possible, nous voulons aider les autres et devenir une bénédiction pour eux, par grâce. Que nous n'ayons pas vécu pour nous, mais pour le Seigneur. Qu'il y ait des frères et sœurs parmi nous qui ne savent pas encore ce que Dieu a fait. Ils ont peut-être entendu parler du ministère de Frère Branham sans savoir de quelle manière Dieu l'a béni et confirmé. Nous avons des bandes magnétiques et de la littérature. En quelques exemplaires, il y a un bon aperçu de son ministère et de ce que Dieu a fait à cette époque. Nous en sommes très reconnaissants au Seigneur. Très reconnaissant au Seigneur. Nous ne serions pas ici aujourd'hui si Dieu n'avait pas fait tout cela et ne nous avait pas ramenés à sa parole. Mais plus longtemps et plus près nous approchons de la venue du Seigneur, ou de la venue du Seigneur plus clairement nous devons prendre notre position dans la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Et nous voulons que cette parole se trouve en chacun de nous quand le Seigneur Jésus reviendra chercher les siens. Nous voulons aussi prier pour les réunions de demain, que Dieu ouvre le ciel et que les flots de sa puissance, de la puissance de son esprit descendent sur nous. Qui veut vivre une Pentecôte? Je pense que nous tous, n'est-ce pas? Nous aimerions tous vivre une Pentecôte, un grondement, un bruit tumultueux venu du ciel. Ah, que le Seigneur apaise notre désir, qu'il nous témoigne qu'il est le vivant et qu'il nous bénisse de la richesse de sa grâce. Amen. Nous nous levons encore pour la prière finale. Oui, Père, nous te remercions encore ensemble. Oui, Seigneur, pour la riche bénédiction ce soir. De ce soir, Seigneur, tu nous as déjà bénis tant de fois. Que devons-nous t'apporter? Que devons-nous te dire, Seigneur? Aide-nous, Seigneur, en ces jours. Seigneur, nous levons les yeux vers toi. Seigneur, nous savons, Seigneur, que ta venue est très proche. Seigneur, fidèle. Nous savons, Seigneur, que tu as parlé si puissamment en nos jours, même au milieu de nous. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Seigneur, même cette nuit, tu seras avec nous. Bénis nos frères, nos sœurs. Seigneur, bénis aussi ceux qui ne peuvent pas être ici. Seigneur, bénis dans tous les pays ton peuple. Seigneur, à l'est et à l'ouest, au sud et au nord, partout, tes élus. Nous te remercions pour tout, au nom de Jésus. Amen.